Comme là actuellement au niveau des vélos, que ça marche super bien, qu'on continue à monter des vélos à deux, qu'on embauche 10 personnes. Ce qui est certain, c'est que dans 2 ans, ce ne sera pas la même chose. Et qu'aujourd'hui, on vit une période super sympa où on découvre énormément de choses, on rencontre plein de monde. On n'a pas une pression énorme pour l'instant, puisqu'on est sur des petites quantités de vélos, sur des trentaines de vélos ou quinzaines de vélos. Donc c'est voilà, profiter du moment présent pour apprendre.
Bonjour, vous êtes dans Le Brief, un podcast de Partir d'un point fixe. Étienne Dreyer est cofondateur de Ethnicycle, une entreprise de fabrication et de vente de vélos cargo basée à Nantes. À tous ceux qui ont peur de s'enfermer dans une voie professionnelle, le parcours d'Étienne montre qu'on peut se renouveler tout au long de sa vie. Il a fait un peu de mécanique à l'école, il a commencé sa vie professionnelle comme technicien radio, il a repris ses études pour être ingénieur, puis il a travaillé 10 ans dans l'informatique. En même temps, il s'est engagé dans l'associatif. Il a monté une activité de photographe, puis une start-up. Enfin, il a passé 2 ans de soirée week-end sur son projet de fabrication de vélos cargo. Aujourd'hui, l'entreprise Ethnicycle est lancée. Étienne revient sur son aventure entrepreneuriale. Il nous donne d'abord les dates clés de cette aventure. Puis il nous parle de sa volonté d'entreprendre et des déclencheurs qui l'ont amené sur la voie de l'entrepreneuriat. On apprendra ce qu'est un vélo cargo et ce que veut dire de fabrication française. Enfin, nous parlerons qualité de vie, éducation et valeur du temps. En selle et bonne écoute. Bonjour Étienne, tu as quitté un poste stable et confortable dans une entreprise tout aussi stable et confortable pour créer ta propre société de fabrication de vélos cargo avec un ami. Avant d'entrer dans le sujet, quelles sont les dates clés de ton aventure entrepreneuriale avec Ethnicycle, s'il te plaît ?
Bah écoute, nous on a toujours eu un petit peu l'idée d'entreprendre. Alors je crois que c'était au mois de juin 2020. Je me rappelle, on avait un petit groupe WhatsApp et puis on se disait si on faisait ça. Donc il y avait peut-être, je sais pas, 10 de personnes. Et il y en a un qui a dû envoyer, hein, c'est pas une blague, si on faisait des vélos cargo. On recherchait aussi bien de l'entrepreneuriat dans de la tech, dans du service ou éventuellement dans de la mécanique. Et là, j'avoue que peut-être que j'en avais marre de l'informatique à ce moment-là, mais celui qui a proposé Vélo Cargo, tout de suite, ça a résonné assez rapidement, assez fort. Et voilà, j'avais aussi une certaine affection pour le vélo d'une manière générale. Donc en juin 2020, on a décidé d'étudier, de cadrer un petit peu la création de Vélo Cargo, entreprendre autour du Vélo Cargo. La création en elle-même de l'entreprise, c'était en novembre 2020. Donc là, on a vraiment eu notre statut, notre SAS. On l'a monté à deux cofondateurs, une troisième personne nous a rejoint après. Et puis moi, j'ai quitté mon poste dans l'informatique plus tard, hein, en janvier 2022. Et mon cofondateur, ça devait être en avril 2021. Donc voilà, on a ces 6 mois de décalage. Mais globalement, ça fait 1 an et demi que l'entreprise est créée. Et me concernant, ça fait que quelques mois que je suis à plein temps sur ce sujet.
Et comment tu vis ? Comment tu vis d'être à plein temps sur le sujet, du coup ?
Il y avait quelque chose qui était assez parce qu'on a vite fait d'arriver à un poste et se dire je suis un peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que des fois je sais pas, on peut gravir les échelons et on se dit en fait c'est super vis-à-vis de l'extérieur mais c'est pas ce qui me convient. Donc là j'ai quand même été attentif au moment où j'ai basculé, je crois que c'est mon père qui m'a dit ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu ressens en fait maintenant que tu as basculé à 100% dessus, comment tu te sens? Est-ce que ça te stresse, je sais pas, de pas avoir de cadre, de pas avoir de commandes, de pas avoir de chef? C'est peut-être tout bête, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Et en fait, j'étais hyper zen, hyper. C'était un bien-être, je vais pas dire profond, mais même si c'est pas confortable, j'avais l'impression d'être à ma place. Et puis on a toujours la banane pour aller au boulot, on sait pourquoi on travaille et ça c'est un vrai luxe. Donc là on est dans une période de création d'entreprise, hein, mais c'est vraiment vraiment agréable et pour l'instant je regrette pas et on profite de l'aventure.
Comment tu en es venu à prendre cette décision de créer cette boîte en fait? Quel a été le déclencheur? pour quitter un CDI.
Mais pourquoi tu as fait ça?
Pour être si bien aligné aujourd'hui. Que s'est-il passé?
Alignement, ouais. En fait, l'envie d'entreprendre, plus que de faire le malin et de dire je vais monter ma boîte, vraiment l'envie d'entreprendre, de tenter l'aventure, de rien regretter. Donc, comme c'est quelque chose auquel j'aspirais, dans les décisions que j'essaie de prendre, je me dis, voilà, s'il se passe un truc demain, sans être alarmiste, qu'est-ce que je pourrais regretter? Et ça, c'est quelque chose que j'avais, il y en a qui veulent faire le tour du monde, ça, c'est quelque chose que je voulais tenter. Donc, ça, c'est un bon driver pour mes choix, en tous les cas. Donc, c'est pour ça que l'opportunité s'est présentée de monter une boîte qui a la particularité en fait d'avoir déjà un marché. On sait que le marché des vélos cargo électriques est présent. On sait qu'il y a des vélos cargo qui sont en vente, on n'arrive pas, le marché est tellement dense que les gens n'arrivent pas à fournir. Donc ça, c'était quelque chose qui était évident pour nous. Le déclencheur, en fait, ça a été aussi 10-15 ans dans l'informatique, donc la fin d'un cycle. L'envie d'être plus autonome, l'envie d'être peut-être plus utile. Donc, on en avait parlé un petit peu en préparant ce podcast. Je crois que c'est les Japonais qui parlent d'ikigai, où il y a le boulot idéal. Hein. Enfin, l'activité idéale, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'être payé pour ce qu'on fait, éventuellement d'être doué pour ce qu'on fait et de faire quelque chose qui est utile aux autres. Avant, j'avais l'impression d'être bien payé. Peut-être d'être doué, mais ça s'arrêtait là, en fait. Donc ça, c'est ce qui caractérise une profession. Là, j'ai l'impression de faire quelque chose... Alors, je dis pas que je suis doué. Dans tous les cas, on a un vélo qui est chouette, qui est beau, que les gens aiment bien. Le vélo, on imagine que c'est utile pour la santé et la planète. Un jour, on sera payé. et puis, on adore faire ça. Donc, c'est un vrai luxe d'avoir accès à tout ça. Et puis, on espère que ça va continuer dans cette direction.
Quand on a préparé l'interview, tu me disais que cette boîte, en fait, c'est pas la première boîte que tu as montée. Avant le vélo cargo, tu as eu une start-up.
dans la volonté d'entreprendre, j'ai monté plus des concepts que des entreprises, mais j'ai été photographe pendant 6 ans à côté de mon travail. Donc ça, c'était quelque chose que je faisais le soir, week-end ou pendant les RTT. Où j'avais un numéro de Siret, mais ça restait un job à côté. Mais je travaillais avec des professionnels, donc déjà c'était sympa de se confronter au vrai monde de l'entreprise de la photographie. Ça m'avait vraiment plu. J'ai fait des tests j'ai fait du dessin animé. Dessin animé, ce qui était très drôle, c'est d'avoir testé pas le product market fit, mais est-ce que ce que je vais créer va rencontrer quelqu'un. C'était quand YouTube commençait à marcher, on savait très bien que les dessins animés marchaient fort sur YouTube, il n'y avait pas de plateforme de replay comme actuellement. Et on s'était rendu compte que la pub sur les dessins animés, ça marchait super bien. On a gagné pas mal d'argent en monétisant certains dessins animés avec des copains. Donc j'ai gagné, je ne sais plus comment je vais dire, 3-4 000 euros. Et du coup, je me suis dit, avec cet argent, je vais créer un dessin animé qui s'appelait Théo et Léo, la balade dans l'espace, vous pourrez regarder. Et c'était génial. J'ai fait faire un vrai dessin animé qui dure 2 minutes 30. Donc ça a été un super apprentissage, les storyboards, le doublage, la musique, c'était génial. Sauf que, petit détail, personne ne cherche Théo et Léo sur Internet. Donc j'ai fait, je vais dire une bêtise, 50 000 vues, 100 000 vues, vous regarderez sur la vidéo. Et à côté de ça, j'ai fait une comptine au feu les pompiers. Tout le monde tape au feu les pompiers pour ses gamins sur Internet. Le truc, ça a été fait, sans mentir, le dessin animé en 10 heures, montre en main, j'ai fait 2 millions de vues dessus. Alors, il faut remettre dans le contexte, c'était à l'époque où il y avait peu d'offres sur la vidéo sur YouTube. Le dessin animé est horrible, franchement, c'est nul. Ça boucle, on a chanté, on s'enregistre sur l'iPhone, mais 2 millions de vues. Donc, quand on crée quelque chose, quand on a une idée, il faut l'idée du marché là, et des clients potentiels, je me la suis pris vraiment en pleine tête. Ça, c'était un bon apprentissage. Et l'autre concept notable qui m'a un peu plus marqué, c'est lorsqu'on avait monté, on avait constaté qu'on allait à la boulangerie, on se retrouvait avec nos voisins à la boulangerie, chacun avec sa petite voiture. Et donc j'avais tenté de faire de la livraison de pain entre particuliers. En gros, je vais chercher mon pain et sur l'application, si je vois que certaines personnes dans mon quartier veulent une baguette, je leur ramène. Super sur le papier. Et au final, donc on l'a testé pendant 6-8 mois, je crois. Et c'est très compliqué. C'est compliqué parce que les gens n'ont peut-être pas tant besoin de se faire livrer le pain que ça. On fait travailler des particuliers entre eux, donc c'est compliqué. On travaille avec des boulangeries. En fait, c'était du B2B2C. Enfin, c'est un modèle qui est... Juste si j'avais écrit ça sur la table, je me serais dit, mais en fait, non, c'est pas possible. Donc, ça a été un bon apprentissage. Je dis pas que c'est pas un modèle qui fonctionne. C'est juste qu'au bout d'un certain temps, mon cofondateur est parti à Paris. Il a déménagé. Je me suis retrouvé tout seul. Et là, j'ai arrêté. Donc, l'échec, c'est pas spécialement d'avoir pas pu aller jusqu'au bout, mais c'est d'avoir décidé d'arrêter. En fait, l'échec, il arrive parce qu'on le décide, parce qu'on arrête d'essayer, en fait. Donc c'était un super apprentissage, d'une part de tester le concept avant d'acheter ou de faire développer une application, puisque là on l'a fait vraiment avec les moyens du bord, et d'autre part de se dire qu'une fois qu'on est tout seul, enfin en tous les cas moi ça me correspond, une fois qu'on est tout seul, eh bien on se retrouve, c'est beaucoup plus dur, et souvent je connais plus le chiffre, hein, mais la cause des arrêts de start-up, souvent, quand il y a une divergence entre les cofondateurs ou un départ de cofondateur, ça peut aller très vite. Donc, c'était un bon apprentissage.
Donc, au final, quand même, à chaque fois que tu fais un projet d'entrepreneuriat ou de recherche-application, enfin, tu montes vachement en compétences sur le sujet. Pour aller au bout de ton aventure. Après, bon, bah, c'est un échec ou pas, comme tu dis, c'est toi qui mets le curseur. Et puis, au final, c'est plutôt l'expérience que tu en retires qui fait la valeur de ton essai.
Ouais, tout à fait. C'est une bonne remarque. Un incubateur de start-up nous avait dit, quand il nous avait aidé pour. Donc, c'était merci pour le pain. Il nous a dit votre idée est plutôt bonne. Profitez du moment. Pour apprendre, c'est vraiment ce que vous allez en retirer dans 100% des cas. Profitez de toutes les interactions que vous pouvez avoir et profitez du moment présent, puisque ce sera pas mieux plus tard. Mais que ce soit un succès ou non, et je pense que c'est un bon enseignement. Ouais, vraiment profiter, comme là actuellement au niveau des vélos, que ça marche super bien, qu'on continue à monter des vélos à deux, qu'on embauche 10 personnes. Ce qui est certain, c'est que dans 2 ans, ce sera pas la même chose, et qu'aujourd'hui, on vit une période super sympa où on découvre énormément de choses, on rencontre plein de monde. On n'a pas une pression énorme pour l'instant, puisqu'on est sur des petites quantités de vélos, sur des trentaines de vélos ou quinzaines de vélos. Donc, c'est profiter du moment présent pour apprendre.
Je vais rebondir sur ce mot d'apprentissage. Quel était ton degré de connaissance sur le sujet quand vous avez commencé sur le vélo cargo? Et question subsidiaire, pourquoi le vélo cargo spécifiquement?
Ouais,
tu peux aussi expliquer ce que c'est que le vélo cargo, parce que tout le monde n'a peut-être pas cette connaissance.
Alors, si on revient sur le vélo cargo en lui-même, les vélos cargo, en règle générale, sont des vélos électriques. Le but d'un vélo cargo, comme son nom l'indique, c'est d'avoir une capacité d'emport supérieure à celle d'un vélo classique. Les vélos cargo peuvent, on va dire, aller transporter entre 150 et 250 kg, conducteur compris. Notre vélo cargo, avec les pneus qu'il a actuellement, c'est à peu près 200 kg. Conducteur compris. Donc ça, c'est les vélos cargo d'une manière générale. Ensuite, on va retrouver des vélos cargo à deux roues ou à trois roues. Les vélos cargo à deux roues, on a deux types de vélos cargo. Il y a les biporteurs et les long tail. Un biporteur, ça va être un vélo cargo avec une caisse devant. Et les vélos long tail, donc ce sont des vélos qui sont rallongés à l'arrière. Et ces vélos rallongés à l'arrière ont la particularité d'être un petit peu plus maniables et plus faciles à prendre en main, puisque ça reste un vélo classique avec un grand porte-bagages. Donc on peut tout faire avec. Un vélo cargo, on peut aller chercher les enfants à l'école, on peut faire ses courses, on peut même aller en ville à deux adultes, on peut transporter des charges un peu plus lourdes pour des artisans. Donc c'est un vélo avec une capacité, avec des usages plus étendus qu'un vélo classique. Il est électrique puisque, comme on porte 200 ou 150 kg, c'est vrai que c'est plus simple d'avoir un vélo électrique. Il existe des vélos musculaires, mais du coup qui sont un peu plus limités parce qu'en montée avec 150 kg, ça devient assez rapidement compliqué. Lorsque l'on a commencé à travailler sur les vélos cargo, moi j'étais assez à l'aise avec l'idée de travailler dans le secteur de la mécanique. J'avais une formation jusqu'au bac qui était enfin c'était S option mécanique, c'était pas S option bio, mais c'était S option mécanique. Et mon père était dessinateur industriel, mon grand-père aussi, donc on a ça un petit peu dans le sang et on aime ça, bricoler et puis tout ce qui est un petit peu mécanique. Ça c'était le sentiment et le premier niveau de connaissance. Ensuite, bah, côté études et côté même, je veux même pas parler d'envie, mais envie d'apprendre autour de ça, de s'entourer. Donc on a rapidement contacté des personnes qui nous ont formés, avec qui on a fait aussi un peu de sous-traitance sur les plans. Ça nous a permis de monter en compétence assez rapidement sur tout ce qui est mécanique du vélo. C'est une mécanique qui reste quand même assez accessible pour le commun des mortels. Donc voilà, avec ce niveau bac déjà méca, plus l'envie de découvrir tout ce qu'il y a autour du vélo, le premier gap, hein, je ne veux pas dire qu'on est au niveau professionnel des concurrents aujourd'hui, enfin quand on a commencé, maintenant ce gap on l'a rattrapé et on a un vélo performant qui arrive tout à fait au niveau des concurrents. Donc voilà, un an et demi, on a appris, on s'est entouré et puis on a sous-traité quelques petites parties pour se réassurer, notamment la vérification du cadre. Est-ce que le cadre est assez solide? On le fait valider par un organisme. La production des plans, on est passé par des professionnels. Mais pour tout le reste, on l'a fait nous-mêmes en apprenant.
Tu dis que tu t'es fait bien accompagner. T'es allé chercher de l'aide auprès de professionnels du vélo ou du vélo cargo. Comment ça se passe dans ce milieu-là?
Pour réaliser ce vélo cargo, on a eu deux approches. La première approche, c'était d'aller contacter des professionnels directement. Alors quand je parle de professionnels, ce sont des sous-traitants. Donc ça va être des personnes qui vont nous aider à cintrer, donc c'est tordre les tubes, les découper au laser. Donc ça, c'est toute la partie fournisseur qui nous a vraiment accompagnés. On a constaté que le milieu du vélo, d'une manière générale, est assez bienveillant. Donc quand on se présente en tant que nouveau constructeur, que ce soit la personne qui nous fait la peinture, que ce soit la personne qui nous aide justement à nous fournir l'acier, à travailler cet acier, on a vraiment eu un regard bienveillant et de vrais conseils de leur part. Donc ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. Toujours dans cette progression vers un beau produit, on a eu un accompagnement, enfin pas un accompagnement, mais de bons conseils de la part des concurrents. Un concurrent nous a dit si vous voulez protéger les pieds des enfants vis-à-vis de la courroie ou de la chaîne ou des rayons, vous pouvez très bien mettre alors ce qui ressemble à les poches à huîtres, hein, ce sont des espèces de grillages noirs qui permettent d'élever les huîtres. Ça se vend en rouleau, ça se vend sur la côte. On a contacté un fournisseur et ça donne quelque chose de très design qu'on a découpé et retravaillé avec la personne qui nous aide à faire les accessoires. Ça a été un concurrent direct qui nous l'a proposé. Ce concurrent direct nous a également dit « Votre vélo, il a une super partie cycle, n'y touchez plus. » Il nous a dit, je ne sais pas moi, la fourche, elle est un peu légère, je passerai, je ne sais pas, de 28 à 32. Donc ce milieu nous a d'une part validé notre prototype et d'autre part nous a donné des petits coups de pouce. Donc ça, c'est sur le côté concurrent. Et pour finir, sur le côté vraiment production en tant que telle, on a travaillé sur, là c'était LinkedIn, hein, travaille sur un logiciel qui s'appelle Fusion 360. Ce logiciel, il a une bonne communauté et la personne qui nous aide, Alexandre, sur la production de ses plans et sur l'intégration de tous les composants, on l'a contacté sur LinkedIn et 15 jours après, on était en train de travailler ensemble. Donc on a bien les fournisseurs d'un côté, les partenaires, les concurrents de l'autre, et puis de la sous-traitance pure. Mais dans tous les cas, le fait de travailler sur un produit comme le vélo, on a découvert que c'était plutôt un univers assez bienveillant. Donc ça, c'est un super moteur en tous les cas pour entreprendre.
En fait, c'est une sorte d'écosystème hyper bienveillant et puis qui se... Enfin, vous montez tous ensemble. Enfin, en fait, vous, au final, vous êtes plus des partenaires que des fournisseurs ou des concurrents, j'ai l'impression.
Quand on discute, on a vraiment été étonnés sur le premier salon de Lyon qu'on a fait il y a un an. la réponse de ses concurrents, c'était de dire aujourd'hui ce qui nous bloque à vendre plus de vélos, ça va être éventuellement la voiture, ça va être éventuellement les infrastructures qui ne sont pas disponibles pour accueillir sereinement tous ces vélos. Et puis, ça va être surtout les approvisionnements de pièces aujourd'hui qui sont très compliqués. On a des pièces, donc là, on est en mai 2022, on a des choses qui nous seront livrées fin 2024. Donc, c'est très compliqué pour une boîte en place ou pour une boîte qui se monte comme la nôtre, de gérer rien que cette trésorerie. On a une trésorerie qui est importante, on a des stocks qui sont très importants. Donc, c'est compliqué. D'un autre côté, les vélos, l'année dernière, je crois qu'il s'en est vendu des vélos cargo. Hein. En France, entre 15 et 20 000, il y a eu plus de 2 millions de vélos vendus. Donc on a encore, je ne vais pas parler des 40 millions d'automobilistes, mais on a quand même une marge de progression qui est énorme. On a de la place pour vendre des vélos cargo.
Ce que je comprends, c'est que finalement, le véritable concurrent et les parts de marché à les grignoter, c'est surtout la voiture.
C'est les usages, tout à fait. Usages, même moi en premier, on a vite fait, quand j'avais mon vélo musculaire, on a vite fait d'avoir le réflexe de prendre un véhicule motorisé. Mais on se dit toujours que transporter 70 kg dans une tonne 5, il y a quand même plus efficace. Et le souhait un peu naïf, c'est de ramener le vélo comme moyen de locomotion principal et que la voiture devienne plus rare. Entre 0 et 1 km, on se dit toujours que c'est la marche. Entre 0 et 5 km, c'est plutôt le vélo musculaire. Et entre 5 et 10, le vélo électrique. Donc, entre 0 et 10 km, avec un vélo cargo électrique, en fait, on peut à peu près tout faire. Déposer les enfants, se balader, aller chercher les courses. Donc, si on peut ramener au travers de notre entreprise un petit peu plus de vélos sur la route, c'est quelque chose qui nous plairait en tous les cas.
Est-ce que vous travaillez pour faire connaître le vélo cargo et ses usages? Est-ce que vous travaillez avec la ville ou avec des associations à Nantes pour développer ça?
Oui, tout à fait. Pour aider et contribuer au développement du vélo, pour l'instant, on est encore un peu jeune. Juste en termes de temps, il faut qu'on se concentre sur le produit pour l'instant. On souhaite vraiment échanger sur notre produit avec les premiers clients. Donc ça, pour l'instant, on se concentre vraiment dessus. Néanmoins, à Nantes, il y a l'association Place au Vélo avec qui on échange. Il y a une association qui aide les artisans à acquérir des vélos cargo et à les mettre un petit peu à leur main pour que ça matche vraiment avec leurs besoins. Donc voilà, c'est vraiment les deux types d'associations qu'on peut adresser avec Ethnicycle. Et côté mairie et région, on a signalé notre présence. On a rencontré la maire de Carquefou, là où on est à côté de Nantes. On a on a échangé avec la région Pays de la Loire. Mais pour l'instant, on n'a pas été plus loin, plutôt par faute de temps. Mais ça fait, dès qu'on a une entreprise un petit peu plus présente et un peu plus de temps, en règle générale, il est de bon ton, et nos concurrents nous l'ont dit, il est de bon ton d'aller dans ces organismes-là pour filer un coup de main, récupérer de l'info et contribuer au déploiement du vélo. Oui.
Ethnicycle, c'est un vélo français?
Oui.
Tous tes fournisseurs sont français. Qu'est-ce qu'on appelle un vélo français aujourd'hui?
C'est une vaste question. Il y a des labels qui existent, fabrication française. Nous, pour l'instant, on communique plutôt sur notre cadre. On dit que c'est un cadre fabriqué en France, puisque c'est la seule pièce que l'on maîtrise. Quand on crée un vélo, on construit un cadre, on a un design, et ensuite on intègre des pièces existantes. Donc, plus on va... donc ça c'est la base. Ensuite, lorsque l'on va intégrer ces pièces, on va pouvoir sourcer des pièces de fabrication européenne, française, éventuellement asiatique. Là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a notre cadre fabriqué en France, on a nos jantes, nos rayons qui sont fabriqués et montés en France. Ensuite, le reste, c'est des composants qui sont achetés, certes, pour nous, dans le 44, néanmoins, ça vient souvent d'Asie. Le gros gap que l'on aura dans quelques mois, ce sera le moteur, puisqu'on proposera également un moteur Valeo qui, lui, est fabriqué en France. Donc ça, ce sera quand même un composant important qui devrait arriver d'ici novembre 2022. Voilà. Donc, pour répondre à la question, un vélo fabriqué en France, on parle souvent du cadre. Il est intégré en France, donc c'est la manière dont on accroche toutes les pièces que l'on achète au cadre. Une fois qu'on a créé ce vélo, on peut avoir accès à des certifications produits made in France, produits certifiés made in France. Donc là, ce sont des certifications à passer et on a un pourcentage en fait de notre produit est compatible fabrication française à 30%. On n'est jamais totalement 100% français. Mais en tous les cas, c'est la tendance et souvent on parle du cadre et de la conception. Par exemple, un produit Apple, c'est californien, mais ce n'est pas fabriqué en Californie. Un produit comme un vélo cargo, il peut être conçu en France, il peut être intégré en France, et il peut y avoir aussi la construction et la soudure du cadre fabriqué en France. Donc c'est différents niveaux, mais la question est loin d'être tranchée et n'est pas binaire, bien entendu. Ouais.
Donc ce que je comprends, c'est que vous concevez et vous construisez le cadre dans votre entrepôt de Carquefou à côté de Nantes.
Tout à fait. On reçoit...
Et vous intégrez.
Voilà, exactement. Les pièces sont... L'acier est envoyé chez un de nos sous-traitants. Donc l'acier qu'on achète en France est envoyé à un de nos sous-traitants qui a pour... on lui a envoyé les plans. Hein. Et donc ce sous-traitant va nous cintrer les tubes, donc les tordre, nous les découper au laser et nous les renvoyer. Une fois qu'on reçoit toutes ces petites pièces, on doit les souder ensemble pour faire la première partie du cadre qui ensuite est envoyée en peinture. Oui, tu as tout à fait raison, la partie cadre est bien construite, fabriquée et produite dans sa totalité à Nantes.
Et donc maintenant, donc ça fait quelques mois que vous êtes dans cet entrepôt-là. Ça en est où, votre production de vélos ?
Donc il y a eu différentes phases. Tout à l'heure, on mentionnait la création de l'entreprise. Donc aux alentours de novembre 2020, on a rassemblé un capital donc d'argent de cofondateurs et un peu love money pour quelques dizaines de kilos d'euros pour créer des prototypes. Ces prototypes avaient pour but de valider le fait que Étienne et Nicolas soient en capacité de fabriquer un vélo, tout simplement, quoi. Donc on en a fait deux, et c'est bien ces deux prototypes qu'on a été présentés au salon du vélo cargo en 2021. Et là, on revient sur ces fameux concurrents qui nous ont donné tous les conseils dont on a parlé tout à l'heure, dont votre partie cyclée bien, n'y touchez plus, passez aux accessoires ou passez à la suite. Donc ça, c'était la première phase de prototypage sur 2021, où on a validé notre géométrie et on a créé vraiment la base de notre produit. Ensuite, là, on s'attaque à la série, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse répéter ce cadre. Et pour répéter ce cadre, autant les premiers cadres, on les avait faits à la main, on avait cintré nous-mêmes, on avait découpé nous-mêmes, autant pour les cadres de série, c'est là où on passe par un tiers qui va les cintrer de manière professionnelle, qui va les découper au laser, ce qui va nous permettre d'avoir une répétabilité. Tous les cadres seront pareils, puisque si on certifie un cadre, on a des certifications, des tests d'usure du cadre, eh bien il faut qu'on puisse prouver que tous les cadres seront faits de la même manière. Donc on a fait deux vélos en prototype, pour répondre à la question, phase de prototype. Là, on attaque une série de 18 vélos sur la fin de l'année. Donc là, on en a fait 4, on en a vendu 2. Il y en a un qu'on vend ce soir d'ailleurs. On en a vendu 2. Il y en a un qui part en certification, un que l'on conserve pour les tests, les démos. Et puis au mois de juin, on reçoit une quinzaine de cadres pour la suite en fait de la production. On reçoit des lots de 16 cadres en fait. On fait 16 cadres, on vend les vélos. Enfin, on les vend avant, mais voilà, on a 16 cadres. On a des rotations de 16 cadres pour pouvoir répondre aux besoins de financement, hein, puisque ce sont des pièces que l'on achète en avance. Et puis, en fonction des précommandes, on les vend 16 par 16. Donc, on a fait actuellement. On est au sixième vélo, là, globalement. On en est au sixième vélo. Il y a 4 vélos qui roulent et on est en train de finaliser les deux autres. En attendant la prochaine série qui arrive au mois de juin.
D'accord. Et pour votre précommande, donc les gens passent sur votre site ?
Alors pour les précommandes, les gens essayent notre vélo au début et puis une fois qu'ils ont choisi vraiment leur couleur, ils ont choisi leur moteur, il y a différentes motorisations. En général, on échange avec les personnes, c'est pas juste sur le site. On prend contact, effectivement, comme tu dis, sur le site et puis ensuite on se voit et puis soit ils passent à l'atelier et il y a une précommande, oui, tout à fait. Sur le modèle de revente des vélos, pour l'instant, comme on produit en France, nos marges sont très comprimées en fait. On aimerait passer par des revendeurs classiques que l'on peut retrouver en ville. Pour l'instant, on n'a pas cette possibilité-là parce que la part prise sur la vente de ces vélos est trop importante. Ce qu'on propose pour l'instant, c'est d'utiliser nos premiers clients comme ambassadeurs. En fait, on a remarqué que les personnes qui roulaient en vélo cargo aiment bien communiquer autour de cette mobilité. Et à ce titre, une fois qu'ils en parlent autour d'eux, ils peuvent faire essayer le vélo cargo et pourquoi pas le vendre. Donc on imagine plutôt dans un premier temps utiliser des ambassadeurs à qui on donnerait quelques centaines d'euros pour pouvoir faire la promotion du vélo. Et puis, dès qu'on le pourra, pourquoi pas passer par un magasin pour de la revente. Les magasins ont quand même aussi le gros avantage de gérer le SAV. Aujourd'hui, si on passe par un ambassadeur, le SAV passera certainement par une entreprise tierce. Alors, on a des entreprises en tête comme Cyclofix, qui interviennent d'ailleurs en vélo cargo, dans toutes les agglomérations. Donc, ce sera certainement une solution hybride de ce type-là que l'on testera dans les mois à venir. Donc, ambassadeur pour la vente pour l'instant, et des entreprises tierces de type Cyclofix pour le SAV de nos vélos.
Quelle est votre ambition pour cette entreprise ?
C'est une vraie question. C'est une vraie question. Il y a deux modèles qui s'affrontent un petit peu. Alors, notre souhait, c'est de nous payer pour pouvoir maintenir cette activité d'une manière ou d'une autre, hein, soit en levant des fonds, soit en étant rentable avec le roulement des vélos. Après, il y a deux chemins. On aimerait vraiment vendre le plus de vélos possible. Si on vend le plus de vélos possible, on va devoir s'étendre. On va embaucher, on va lever plus de fonds. C'est pas tout à fait la même gestion que celle que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en capacité de produire entre 50 et 100 vélos à deux par an dans notre atelier, en conservant le modèle que l'on a actuellement, hein, c'est-à-dire recevoir les tubes cintrés et découpés au laser, et puis les souder, les faire peindre et les livrer. Si on passe 150, 200, 300, on va devoir salarier des personnes, déménager, et du coup, c'est pas tout à fait le même projet. Donc, il y aura d'ici l'année prochaine, en fait, un choix entre on reste à 100 vélos par an, ou alors on s'étend et on devient... on fait une petite usine, une unité de production un peu plus grande pour pouvoir répondre à une demande qui serait plus grande. Ce sera les deux choix possibles sur lesquels on devra statuer, on va dire, je pense courant de l'année prochaine.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce qu'on s'est dit ? Est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas posées ou quelques...
Il y avait peut-être un élément sur lequel je suis parvenu. Quel est le sentiment depuis qu'on a switché en fait Ethnicycle, alors qu'avant j'étais informaticien ? Une fois que je me suis retrouvé à plein temps sur ce projet-là, il y a une chose qu'on a découverte en discutant avec les enfants. Donc quand on part dans ce type d'aventure, j'avais quand même dit à mes enfants, je vais tenter cette aventure, ne vous inquiétez pas, on a quand même des sécurités, mais je vais tenter l'aventure. Et en fait, j'ai constaté qu'à partir de 8, 9, 10 ans, l'éducation, je ne vais pas dire qu'on ne peut plus faire grand-chose, mais c'est compliqué. C'est déjà des je ne vais pas dire des jeunes adultes, mais ils ont déjà vécu beaucoup de choses. Et quelque chose qui marche beaucoup, en tous les cas, moi, c'est ce que j'ai vécu personnellement, peut-être vis-à-vis de mon père, c'est que l'exemple des parents est peut-être important pour l'éducation. Et là, le fait de dire, écoutez, papa, il a une idée, il va tester quelque chose, ça donnera ce que ça donnera, ça dégonfle un petit peu le côté sacro-saint CDI, où il faut absolument être blindé de partout, en sécurité, en assurance. Là, l'idée, le message, c'est de dire, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, la mobilité, peut-être que c'est plus utile pour la planète, la santé de tout le monde. C'est quelque chose qui permettra peut-être d'avoir plus de souplesse sur les horaires, quelque chose qui permettra d'être plus présent à la maison. Donc on va le tenter Et bah, peut-être que ça peut leur donner plus confiance dans l'avenir et d'être moins cristallisé autour de, encore une fois, il faut que tu chopes un CDI, il faut que tu fasses de grandes études. Donc c'était un message que je trouvais assez cool. On en discutait du coup avec Nicolas, mon cofondateur. Et bah, c'est quelque chose qui était un beau message et plutôt qui pacifie un petit peu la tendance, pas alarmiste du moment, mais ultra sécuritaire qu'on peut indirectement communiquer aux enfants, quoi.
Ton objectif, tu m'avais dit aussi autour des enfants, c'était de passer un vrai temps avec eux.
Ouais, la pertinence, enfin, l'intérêt d'avoir sa propre activité, c'est de choisir les moments où on travaille. Et je me rendais compte que lorsque j'avais mon précédent travail, j'avais une légère tendance à être avec eux, mais sans vraiment passer du temps avec eux. C'est-à-dire que j'allais lire à côté d'eux, regarder un film ensemble ou ce genre de choses. Là, l'idée, c'est d'être, de partager des activités, je sais pas, aller en voyage scolaire avec eux, enfin passer du vrai temps avec eux, jouer avec eux. Et ça, c'était un souhait aussi de ce changement d'activité, de pouvoir passer plus de temps avec les gens qui comptent. Donc, je parle pas spécialement des enfants, même si c'est le cas, mais passer plus de temps avec ses parents, passer plus de temps éventuellement avec ses amis ou avec même dans le milieu associatif. Voilà, donc ça, c'est important aussi de pouvoir allouer son temps comme on souhaite. Et ça pesait lourd dans le choix de créer son entreprise. Ouais.
Quelques mois après... Enfin, même maintenant, ça fait 2 ans que tu travailles sur cette entreprise. Qu'est-ce qu'il en reste de ce souhait d'avoir un vrai temps avec les autres ? Parce que en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on n'a pas tout le temps en fait en arrière-fond tout ce qu'on doit faire pour l'entreprise ?
Au bout d'un an et demi, quand on regarde tout ce qu'on a fait et ce que j'avais imaginé. Sur le temps libre, le temps alloué aux autres est plus flexible. C'est-à-dire que j'ai pas forcément plus de temps. Néanmoins, j'arrive à l'allouer vraiment comme je veux, de 15h à 16h30. Voilà, c'est des périodes qui n'existaient pas dans mon activité précédente. Ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable pour allouer ces petites périodes. Là, on a une association donc intervient à l'hôpital de Nantes pour qui on travaille le mardi après-midi. Nicolas travaille aussi pas mal pour cette association en back-office. Donc on peut allouer des après-midi pour les autres. Et puis, pour répondre à ta question, globalement, je dirais pas que j'ai plus de temps qu'avant. Donc non, c'est une très bonne question. Globalement, je pense que le temps est alloué de manière beaucoup plus facile, mais j'ai pas beaucoup plus de temps. Et par contre, le temps passé avec les enfants, oui, c'est vraiment des moments chouettes. On peut aller chercher à l'école n'importe quel moment. Ça, c'est vraiment des éléments assez souples qui sont qui répondent à l'ambition que je m'étais fixée. Ouais.
Donc même en tant qu'entrepreneur, tu arrives quand même à allouer du temps à autre chose parce que tu l'as décidé.
Oui.
Et avoir une vraie qualité de temps, justement, passé d'accompagnement, en tout cas, d'être
ouais, tout à
vraie
fait,
qualité.
Ouais.
Tu arrives à débrancher. Donc, c'est pas parce que le message, c'est pas parce qu'on est un entrepreneur que ça nous bouffe toute notre vie personnelle.
C'est un choix initial des cofondateurs. C'est-à-dire que nous, on peut très bien se dire, dans 6 mois, je veux qu'on ait vendu 100 vélos. Et au bout de 2 ans, si la boîte a atteint une rentabilité et qu'on peut la vendre 1 million, on la vend. Ça, ce sont des ambitions communes que l'on doit fixer pendant le cadrage du projet ou de l'entreprise. Voilà, ce sont des ambitions qui doivent être communes et un choix qui doit être collégial. Nous, ce n'était pas le cas. On souhaitait vraiment mêler cette activité de rencontre, de richesse, de partage et surtout d'apprentissage pour arriver à un beau vélo, pour passer même du temps de qualité avec les clients, hein, pour être fier de notre vélo, et peu à peu d'amener un vélo français dans les rues de Nantes, puis partout ailleurs. On souhaitait aussi pouvoir prendre du temps, une demi-journée, On navigue, par exemple, on va souvent sur la côte une demi-journée par semaine ou tous les 15 jours. On souhaitait aussi prendre du temps avec nos proches. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas discutable, en fait. Alors, je ne veux pas dire que si on a une commande de 30 vélos ou de 10 vélos, on va partir 15 jours à l'île de Léron. Néanmoins, tout le monde est au courant que la vie à côté de l'entreprise est importante. Mais c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui a été partagé à l'origine et à la création de l'entreprise. Il faut vraiment que les associés soient... que ce soit encore une fois une décision collégiale.
Ok, c'est une belle ambition. Est-ce que tu aurais un mot de la fin?
C'est le point dont on parlait tout à l'heure qui peut-être n'est pas évident, mais globalement, même si mon souhait aujourd'hui, c'est... à l'heure où on parle, c'est d'avoir, mettons, 5 commandes de plus. Malheureusement, quand j'aurai ces 5 commandes de plus, il m'en faudra 10. Peut-être que je voudrais absolument recevoir le nouveau moteur. Enfin, j'aurai toujours quelque chose de mieux à faire. Donc, c'est vraiment... on vise tous un peu un avenir, un peu mirage, qui sera mieux plus tard. Donc, c'est un peu ce que nous avait dit l'incubateur à Montpellier, là, quand on avait le concept Merci pour le pain. C'est vraiment de profiter de l'aventure maintenant. Et donc, ça veut dire aussi du temps qu'on a de libre, du temps où on découvre, de la phase d'apprentissage, des échecs. C'est vraiment le chemin qui vaut le coup, quoi. En fait, ça sera pas mieux après. On vise des choses qui nous font peut-être plaisir et qu'on attend avec impatience, certes, mais si on parle de bonheur ou de moments plaisants, il n'y aura pas mieux que maintenant. Donc, faut profiter quand même de maintenant.
Eh bien, merci. C'est une très belle phrase de fin. Vous avez fait connaissance avec Étienne Dreyer, le cofondateur d'Ethnicycle. Pour suivre les aventures de ces vélos cargo made in France, retrouvez son site internet dans les références de l'épisode. Vous y trouverez également les liens vers Théo et Léo et Au feu les pompiers. Cet épisode a été réalisé par Partir d'un point fixe avec l'aide du studio Module. La prochaine fois, je vous raconterai les secrets de conception et de réalisation de cet épisode. À bientôt dans le brief.